Bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous.
Partis de zéro, ils ont tout fait par eux-mêmes. Aujourd'hui à la retraite, Pierre et Sophie nous offrent leur récit de vie d'investisseurs immobiliers pas comme les autres et un retour d'expérience d'une quarantaine d'années aux quatre coins du monde. Achat aux enchères, rénovation, opération de division, autoconstruction et revente avec forte plus-value, ils ont fait preuve d'une grande ingéniosité dans tous les types de stratégies qu'ils ont pu tester au fil du temps. Malgré les aléas de la vie et de la bourse qui ont personnellement impacté nos deux investisseurs, découvrez comment ils ont su tirer parti de l'immobilier pour finalement s'en sortir d'une belle manière. Pierre et Sophie nous expliquent comment ils ont su saisir les opportunités au moment ou là où elles se trouvaient et vous constaterez que l'immobilier d'il y a 20 ou 30 ans n'était pas forcément plus évident qu'aujourd'hui. Pour autant, les mêmes questions intemporelles ont guidé leur parcours. Quelle est la vraie valeur du bien? Comment bien estimer ses travaux? Comment se former pour repérer les bonnes affaires et faire soi-même des travaux? Enfin, également passionné par la bourse et les marchés financiers, Pierre nous partage cette autre vision de l'investissement qui pour lui est complémentaire à l'immobilier. Je ne vous en dis pas plus, cet épisode est rempli de surprises qu'il n'est vraiment pas possible de détailler dans cette introduction déjà très longue. Je vous laisse sans plus attendre écouter ma conversation avec nos deux investisseurs intrépides. Pierre et Sophie, merci de m'accueillir chez vous dans votre nouvel appartement à Nouméa. On est en octobre 2018. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer puisque donc vous avez un parcours d'investisseur immobilier qui est assez atypique. Donc pour rappeler un peu aux auditeurs, justement, on a discuté un petit peu il y a 5 minutes là. Vous étiez à l'époque dans la société Air France. Et vous avez aussi voyagé pendant plusieurs années sur un gros catamaran à travers le monde. Et vous êtes arrivé à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours, vos idées, replacer ça un peu dans le temps? Et qu'est-ce qui vous a finalement amené à investir dans l'immobilier, à vous intéresser à ça et après expliquer un peu ce que vous avez fait?
Vas-y,
okay. Alors, au départ, donc, on avait fait l'immobilier en métropole avant de faire du bateau. Après, on est parti en bateau. Donc, du coup, on avait loué notre maison pendant le temps où on était parti en bateau.
Ouais.
Donc, ça nous a fait une première expérience de location qui, au fil du temps, s'est mal passée. Après, on a revendu, on est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Et puis là, on avait, entre deux, on a investi en action. Ouais. Et là, ça s'est mal passé aussi parce que c'était l'époque du...
Alors, est-ce que, on peut replacer au niveau de, c'est à quelle période? C'est à quelle année à peu
près? Ça, c'est en 2000, en 2001.
Et ça, c'était votre résidence principale, en fait? Que vous avez...
Là, on n'avait plus la résidence principale qu'on avait louée.
On l'a vendue en 2000.
Et on l'a vendue en 2000.
D'accord.
Voilà. Et donc, on est arrivé ici, on a décidé de rester en Nouvelle-Calédonie.
Vous êtes arrivé en bateau?
On est arrivé en bateau, okay. Oui. Et du coup, on a investi tout de suite en arrivant, on a investi dans des actions.
Ok, c'est la bourse, quoi. Hein.
Voilà, la bourse qui s'est crachée en 2000-2001.
Donc ça, c'est le fameux crack de l'an 2000.
Voilà, ouais. Oui. Et du coup, on a voulu se rebondir et puis on s'est dit, tiens, on va acheter par adjudication parce qu'on avait un ami qui avait fait ça justement en métropole.
Durant notre parcours,
vous pouvez nous raconter un petit peu,
parce que
vous avez perdu beaucoup d'argent avec la bourse. Ouais. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé et puis après, comment vous avez eu l'info de... Ben, cet immobilier-là, vous étiez parti en bateau, je crois.
Donc, comment ça s'est passé?
Tu avais laissé.
Comme on avait touché des indemnités par rapport à un accident qu'on avait eu précédemment.
C'est intéressant, parce que vous avez eu un accident qui vous a amené finalement à changer d'emploi.
Voilà, de vie carrément. Et donc, du coup, cette indemnité, on l'avait replacée en action, donc avant le crash. Parce que ça montait tellement, donc il y avait une telle effervescence, une telle...
Ouais, c'est la bulle Internet, enfin.
C'est ça, la bulle Internet. Donc, on a voulu y participer.
On l'a confié à quelqu'un.
Et à l'époque, on n'avait aucune expérience. quasiment. Donc on s'est un peu fié à des gens qui nous ont, qui nous ont pas influencés, mais qui nous ont permis de trouver des placements qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Ouais. Et puis, la bulle a éclaté, on a perdu de l'argent, et puis on a voulu se refaire après.
Donc, on s'est refait. À peu près, c'était combien, 50%, 60% de votre capital?
Je pense 30-40% sur le capital.
Ouais, 30-40%.
30-40%, oui. Il y a un moment, il faut se dire, comme on dit en bourse, il faut, une fois qu'on a perdu la main, il faut savoir si on perd la main, le bras, ou si on perd tout.
Ouais. Quoi, du coup, vous avez tout retiré.
Ce qui restait, on l'a retiré, et puis on s'est dit, on va se refaire, on va essayer de se refaire avec de l'immobilier.
D'accord. Et c'est venu comme ça, l'immobilier? C'était non. Dans votre
esprit? C'est une idée que tu as eue, plus que moi, au départ.
Durant notre parcours nautique, ouais. Nous avons rencontré une personne, nous sommes devenus très amis, qui avait un parcours par l'adjudication vraiment très positif. Okay. Il avait réussi bien, il achetait, il retapait lui-même, il était dans le métier, il était ingénieur même dans ce métier-là, et il louait. Et d'accord. C'était parfait.
Alors, l'adjudication, est-ce qu'on pourrait expliquer un peu? Parce que moi, ça me fait penser à la vente aux enchères. Mm-hmm. C'est ça, tout simplement.
C'est ça, tout à fait.
C'est quoi? C'est des saisies de biens
de biens, de sociétés ou n'importe
quoi. Voilà. Des impayés ou des choses comme
voilà.
Ça.
Et, par les banques. Saisies par les banques.
Saisies par la banque. C'est quoi? C'est comme une hypothèque et après, ils mettent en vente.
Oui, voilà. Les gens ne peuvent plus payer. Ou la banque, ou la société fait faillite.
Tu appelles ça l'adjudication?
C'est aux enchères.
Oui, c'est ça, les enchères. Okay.
Voilà. Et en fait, il y a eu la curiosité la première fois parce que ça se faisait dans le temps à la bougie. Et donc, l'adjudication, le dernier qui donne son enchère, c'est quand la bougie s'éteint, c'est le dernier qui a donné l'enchère qui l'emporte.
D'accord, donc c'est une vraie bougie qui est allumée.
Une vraie bougie.
Il faut attendre à la fin, quoi.
Voilà.
Ça, on a les yeux, tout le monde va mesurer sur la bougie.
Des petites flammes. Hein, c'est pas, okay. Ça ne dure pas 2 heures. Hein, ça dure quelques minutes. Hein,
d'accord.
Mais voilà. Donc ça pousse les gens à monter vite s'ils sont intéressés.
Le stress, il faut avoir fixé son plafond. Quoi.
Alors en France, je sais que, mais je sais pas si c'est partout pareil, c'est à l'intermédiaire d'avocats. Là, c'était privé, n'importe qui pouvait participer. Donc ça, c'est d'accord. Très intéressant. Mmh. Et c'est la curiosité a fait que on était les seuls.
D'accord.
À l'époque, à s'intéresser à ça.
De votre entourage, en fait.
Je veux dire, ici en Calédonie, on n'a pas vu beaucoup de monde.
Vous êtes en Calédonie, c'est quoi? C'est un peu après 2000, du coup?
Oui, c'est
2001. Et vous allez quoi? C'est au tribunal ou,
alors, on voit, il y a des annonces qui sont dans le journal et tout.
D'accord.
Et on va aller voir sur place si ça nous plaît, parce qu'on se dit que ça plaira à d'autres. Okay. Hein. Mm-hmm. Donc, alors, la particularité, c'est qu'il faut trouver quelquefois le bien. Ce n'est pas toujours bien expliqué. Donc, c'est un vrai parcours du combattant.
Okay.
Et aussi... pour valoriser. Donc après, il faut payer dans les 3 mois, je crois.
Tout de suite, il faut faire un premier petit chèque et après, on a...
Il faut aller vite.
À peu près 30 jours pour payer, je pense, le bien.
Le financement rapidement.
Très rapidement. Donc nous, on avait l'atout d'avoir eu cette assurance qui avait marché, qui restait un peu de capital. Donc on a commencé par des petites maisons, mais on retapait tout nous-mêmes. On a acheté un vieux camion pourri, on dormait dedans, on allait et on peignait. J'ai appris le carrelage, le caprinage du carrelage. Alors j'avais plein de bouquins de déco, je faisais comme si c'était pour moi.
Du coup, vous achetez votre premier bien, c'est une maison du coup en vente aux enchères.
Ouais.
Et là, vous mettez à retaper. Est-ce que vous m'expliquiez un peu où c'était le quartier?
Mondor-Sud. Mm-hmm. Et en fait, il n'y avait personne dedans. Les personnes étaient reparties en France, je ne sais plus. Et on a eu la chance qu'il n'y a pas eu trop de travaux. Donc, on a pris du plaisir aussi avec cette maison. On a fait des pique-niques avec des amis, tout ça.
Retaper entre amis, quoi.
Voilà.
Comme on a fait un grand terrain.
On n'y connaissait rien. Ouais. On a eu la chance de tomber sur une agence qui nous a dit, le terrain est grand, vous pourriez peut-être faire une division, comment on appelle ça, division juste pour la clôture, là. Quelque chose comme ça. Donc, le conseil, on l'a suivi. On a vendu la maison, le prix qu'on avait acheté.
OK.
On n'a pas compté notre, notre temps, ce qu'il valait.
OK.
Hein? Mais le terrain nous a fait un très bel plus-value.
OK, super.
Ce qui a permis après, quand on s'est présenté à une autre maison, on pouvait presque en acheter deux, quoi.
OK,
c'est génial. L'ennemi, voilà.
Donc, vous avez fait une opération de division presque... comme un pro, je dirais, parce que c'est des opérations c'est pas commun.
On ne savait pas.
Il faut le savoir.
De toute façon, on fait appel à un géomètre. Hein, après, pour
Vous
rappelez un peu de la plus-value que vous aviez fait, à peu près, sur la vente
du terrain. Le prix du terrain, je pense.
Et le terrain.
À la louche, on n'est pas...
Non, ça fait, attends, ça fait 30%, 40%.
Oui, en pourcentage.
Mais on inclut notre travail dedans.
OK, 30%.
Et les matériaux.
Ouais. Et les terrains étaient aussi chers à l'époque.
Mais en peu de
temps. Aujourd'hui, il y a près de 20 ans.
Ah non, il n'était pas cher.
Parce qu'un terrain d'or aujourd'hui, c'est...
Non, mais c'est ça.
Ouais, un terrain de 10 heures, enfin, c'est, je ne sais pas, c'est entre 10 et 15 millions.
Ouais, non,
c'était ça. C'était la moitié, quoi. Mais à l'époque, c'était aussi une
plus-value. Mais à l'époque, voilà. Et puis en fait, on faisait le prix du marché parce que, déjà, à savoir, on donnait toujours aux agences immobilières nos ventes.
D'accord. Il y a une raison.
Alors, je vais vous dire pourquoi. Mm-hmm. Parce qu'on trouve toujours un petit défaut. C'est jamais parfait.
Ouais.
On n'est pas si bon vendeur que ça. Quand on veut vendre quelque chose, alors qu'un agent immobilier, il sait ce que les gens attendent, il cible bien et tout.
Et
en plus, il vous met dans le bon créneau de la valeur. Il ne surestime pas, parce qu'il n'a pas intérêt, il veut vendre. Et en fait, on faisait vraiment des prix, je ne vais pas dire on ne bradait pas, mais le prix que ça valait pas plus.
Okay.
Donc les agences nous ont souvent dit, on n'a jamais vendu si vite et si bien des maisons.
Ok.
Parce que c'était...
Vous cherchez pas à maximiser votre value, c'était...
Non, juste on voulait payer notre travail et puis faire récupérer surtout nos pertes.
Et du coup, ça vous a permis d'aller assez vite.
On a fait la boucle, comme...
Oui,
c'est en 2 ans, on a récupéré tout ce qu'on avait perdu.
Ok. Du coup, vous avez enchaîné sur combien de biens? Vous pourrez nous raconter un peu les autres opérations.
En 10 ans.
7-8 biens en total.
Oh, plus que ça.
D'accord.
Plus que ça.
Si on
après, on compte pas nos biens
actuels.
Oui. Mais on compte pas ce qu'on.
Donc c'est bien Nouméa ou en Calédonie, quoi.
C'est ça.
Nous après, on s'est fait notre propre maison sur notre grand terrain et là, on a refait des biens, mais ça avait rien à voir avec les ventes par adjudication.
D'accord. Ouais, voilà. Mais c'est intéressant. C'est aussi.
Mais on a aussi acheté non adjudication. Parce que c'est devenu trop cher à un moment donné, parce que des professionnels du bâtiment s'y sont mis.
D'accord.
Et du coup, il y a eu une concurrence, voilà, on n'était plus tout seul. Et puis, souvent, on avait ce que les autres voulaient pas, c'est-à-dire trop de travail, c'était termité et tout. On y allait, on montait les bras, on faisait appel à des professionnels, pas toujours.
Et vous qui a commencé, du coup, sans rien connaître? Vous attaquez après avec des grosses rénovations.
On a bouquiné, on avait 7 documents sur le carrelage. C'était pas
parce qu'il faut rappeler, là c'est le début d'Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
Ah non, c'était que des bouquins.
Moi je me souviens, j'ai appris à faire du carrelage l'année dernière. Parce que même qu'avec vous, j'ai acheté un appartement, j'ai dû faire une salle de bain, j'ai fait une division. Et je savais pas carreler, j'avais jamais fait ça de ma vie, et du coup j'ai tout appris sur YouTube.
Ben voilà, c'est ça.
Ah, mais
ça n'existait pas du tout. Donc on avait plein de bouquins.
Si, moi je me souviens quand même, par exemple en électricité, je savais pas faire un va-et-vient. Je n'avais jamais fait. Je savais qu'il y avait 3 fils, mais comment on les branche, 3 fils? À l'époque, il y avait Internet. On était voir sur Internet.
Ça commençait, c'est ça.
Alors ça commençait, c'était le début, donc je faisais ça quand j'avais du temps. Je faisais mon schéma, puis je partais sur place après le schéma, okay. Puis je passais les fils.
Tu faisais l'électricité aussi.
Je faisais tout.
Plomberie, électricité.
Et pendant votre temps libre, en fait, avec un parallèle de l'activité ou...
Non, bah, c'est-à-dire un petit peu en même temps, on était en train de construire notre maison. Voilà. Donc, entre deux achats, deux ventes, etc.
Sinon, ce qu'on gagnait, on mettait dans la maison.
Okay. Ou quand parce qu'en général, on partait travailler 3-4 jours, par exemple, sur le Mont d'Or, on revenait.
On dormait dans le camion. C'était fun. Il faut prendre ça comme.
Ok, ça vous a plu.
Des challenges.
Ouais, c'est ça. C'est pétillant dur, aussi. D'essayer de se dire aussi, je rénove, et puis après,
on aime
réinvestir.
Ouais, ça. Moi, les artisans, je les admire parce que. Il faut aimer ce qu'on fait, tu vois. Et en fait, si on a bien réussi, je pense que c'est parce qu'on a aimé chaque maison qu'on a rénovée.
D'accord.
Et donc, comme on les a aimés, moi, j'ai pas hésité à trouver des belles choses dessus. On s'y retrouve.
D'accord. Et du coup, aujourd'hui, vous avez gardé un certain nombre de biens sous le nom de Méal. Alors, vous avez investi aussi à l'étranger, dans d'autres pays.
Oui, alors ça.
Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter un peu ces aventures? Alors, c'est le Canada, l'Espagne, il y a peut-être.
Alors, c'est pas les mêmes époques, hein.
Oui, ouais, ouais.
L'Espagne, c'est il y a longtemps, hein.
Mais c'était sous Mitterrand, je m'en souviens, puisque.
Ouais, il y a les années 80.
Voilà. La Corse, ça a été notre plus bel achat. Mais en Corse, c'était pour y aller les week-ends, puisqu'avec Air France, on avait des facilités.
D'accord.
Et on avait des amis là-bas. Donc, on louait pour payer certains frais, impôts et autres.
Ok.
Et on s'est fait beaucoup d'amis de nos locataires.
Ok.
La Corse, c'était, on va dire, notre résidence secondaire.
D'accord. Donc, c'était votre résidence secondaire pour les vacances, on peut dire. Hein.
Oui.
Et puis, vous la louez en meublé, entre guillemets.
En fait, c'était pour notre plaisir qu'on faisait de l'investissement immobilier au départ. C'était pas du tout par rentabilité, c'était pas un investissement, en fait.
On savait qu'on ne perdrait pas d'argent.
Un investissement, c'est quelque chose qui rapporte par définition.
Ouais,
et là, on savait pas du tout, on cherchait pas à maximiser l'argent qui pouvait rentrer d'une façon ou d'une autre.
Mais on était sûr, c'était quasiment sur la plage, on l'achetait sur plan, hein, sur la plage. Donc déjà, c'était fun de faire les plans parce qu'on faisait transformer à notre goût. Et on savait qu'on allait y passer tellement du bon temps que de toute façon, ça ne perdrait jamais. Déjà, quand tu fais comme si tu te dis, toi, moi, mes goûts, c'est... que ce soit les goûts un peu de tout le monde.
Oui, bien sûr. Ouais.
Bien placé, bonne qualité de construction, pas des grands immeubles. Ça se revend facilement, loue facilement.
Proche de la mer, en plus du coup.
Toujours les mêmes. Nous, on a eu dans plusieurs endroits, pendant 10, 15 ans, la même personne, les mêmes personnes qui venaient pour leurs vacances.
Ok. Ouais. C'est intéressant parce que déjà, donc là, les années 80-90, il n'y a pas Internet du tout.
Non,
vous louez en meublé, enfin location saisonnière, je dirais. Ouais. C'était peut-être un peu les prémices où les gens qui commençaient à partir en vacances.
Ça faisait depuis des années quand même. C'est pas l'après-guerre. Hein, quand même.
Oui, d'accord. Je veux dire, pour réserver dans ces endroits, nous, c'est vrai qu'avec Internet, c'est extrêmement facile.
Il y avait des revues spécialisées. Okay. Et on avait un atout supplémentaire, c'est que les gens, ils partaient un mois, donc ils te louaient un mois.
Ouais.
Alors que maintenant, ils louent une semaine, 15 jours, c'est beaucoup. Alors, de ce côté-là, c'était mieux.
Et ouais.
Comme c'était plus compliqué de trouver quelque chose de bien et tout, ils étaient fidèles.
D'accord.
Tu vois, si l'endroit leur plaisait, il y avait des revues spécialisées grosses comme ça, comme un dictionnaire.
J'aime beaucoup votre vision. En fait, là, du coup, la vision patrimoniale, où vous achetez pour vous, c'est un bien de qualité qui vous plaisait, qu'en même temps, vous pouvez louer pour que ça vous Voilà, ouais. Ça,
il y a des frais. Cher,
on a même eu du mal à vendre quelquefois, moi surtout.
Ouais, ouais. D'attachement en fait.
D'attachement, ouais. Ouais.
Et l'autre côté, tout ce qui est vente aux enchères, pour faire des plus-values et pouvoir réinvestir, du coup, le côté investisseur va être mené un peu ces deux stratégies.
Là, c'est vraiment le côté investisseur, ouais. Alors que dans le temps, c'était uniquement pour notre plaisir qu'on achetait. Ouais. C'était pas un investissement au sens propre du terme.
Mais en fait, pour notre plaisir, mais toujours avec l'optique qu'on se trompait pas, que ça allait être un bon placement. Toujours l'optique placement quand même intéressant.
Bien sûr, ouais.
Et on s'est un petit peu trompé pour l'Espagne. C'est là où je voulais... Ouais. Parce que l'Espagne, on a eu du mal. On l'a gardé peut-être trop longtemps. On a eu du mal à revendre.
D'accord. Alors, il faut replacer aussi le contexte. À l'époque, oui, pour faire un crédit, vous pouvez nous rappeler les taux.
Oui.
Donc, ce n'était pas la même histoire qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2018. OK, les taux sont encore très bas.
Et moi, historiquement bas.
On a pris les taux qui étaient aux alentours 12 et 13%.
Donc, ça, c'est dans à quelle période à peu près?
Ça, c'était en 80, sous Mitterrand.
10 et 12%. C'est,
ouais. Mais même en 76, quand on s'est marié, c'était ça.
Oui, c'était déjà, il y avait déjà 76, l'inflation,
78,
il y avait déjà, etc.
Ouais, c'était, c'est chaud là.
Ça s'est accentué. Bah, après, j'ai pu choisir.
Mon père a fait sa maison à cette époque, c'était ces taux-là.
C'était hyper compliqué de se dire, par exemple, si on vendait 10 ans plus tard, est-ce qu'on a fait une plus-value ou pas?
Ah, il y avait aussi l'histoire de la plus-value, il fallait rester dans sa résidence principale. Il y a eu une période, c'était 30 ans presque, 20 ou 30 ans, il y a eu une période.
Pourquoi? Pour avant la revente?
Si tu faisais une plus-value, tu devais payer des impôts assez importants sur la plus-value.
De la résidence principale.
Voilà. Donc si tu avais fait des travaux toi-même, tu n'avais pas de facture.
Ah oui.
Donc, c'était pas incitatif.
C'est marrant, ça, que c'était comme ça avant. Parce que maintenant, je sais que quand on fait une plus-value sur sa résidence principale en France, on n'est pas imposé.
Plus du tout. Il n'y a pas même à vivre 3 ans dedans ou
non.
Un minimum.
Il y a, non, c'est résidence principale, vous pouvez retaper l'année d'après, revendre.
Ouais.
Alors, faut pas faire ça tous les ans parce qu'après, effectivement, vous êtes catégorisé comme marchand de biens par les impôts.
Ouais.
A priori, moi, ce que j'en ai entendu, je suis pas un spécialiste, j'ai jamais fait personnellement. Mais je sais
non plus, ça durait. On gardait au moins 2 ans, 3 ans la maison, même ici. Hein,
ouais. Du coup, aujourd'hui, on dit un investisseur qui veut débuter emprunte sur des très longues périodes parce que comme ça, les trades sont faibles et la location va.
Va payer
tous les frais, le crédit, etc. Mmh. Mais à l'époque, c'était pas la même histoire.
Exactement, complètement différent. Mmh. Pareil pour quoi acheter. Nous, on était un peu maison. Moi, je m'aperçois que maintenant, pour louer, si c'est le but de louer, je peux me tromper, hein, mais il faut un F2, maximum F3. Surtout pas des grands appartements parce que les gens vont dans une maison quand c'est comme ça. Ils préfèrent une maison, mais si tu veux prendre, et c'est plus rentable d'avoir 2 F2, même avec les charges et tout, donc j'estime que le F2 de bonne qualité, où les gens se sentent bien, le F1 ou le studio c'est fini, entre guillemets, parce que les gens, c'est petit, ils ne restent pas longtemps.
Oui.
C'est beaucoup
C'est
travail.
Très axé pour les étudiants ou les gens qui viennent commencer à travailler.
Voilà. Ça dépend de qui tu cibles. Voilà. Par contre, le F1 et le F2, moi je trouve pour un placement rentable de location, c'est parfait. À mon avis, hein, mais je me trompe peut-être. Ce que je vois, nos placements là, c'est les F1, ça commence même à être un petit peu difficile. Dès qu'on a transformé en F2, tout de suite, ça change tout. Chambre séparée, la séjour cuisine, parfait.
C'est vraiment la base du
ça reste plus longtemps, si t'es mieux. Alors qu'autrement, les gens, ça va être du passage en attendant mieux. Quoi.
Et du coup, à l'époque, vous pouviez emprunter facilement près des banques. Et votre stratégie, c'était d'emprunter sur
une période très courte, parce qu'avec de l'inflation, bien sûr, l'inflation aurait pu être plus forte encore, et donc on aurait été gagnant si on avait emprunté sur le long terme. Mais bon, quand il y a déjà de l'inflation à 13%, je ne pense pas qu'elle puisse, dans un pays normal, on va dire, où l'économie fonctionne, on ne peut pas penser que l'inflation va dépasser ces taux-là. Quoi. Donc, du coup... on peut penser qu'ils vont baisser les taux. Donc, il faut emprunter le moins longtemps possible parce que s'il n'y a plus que 5% d'inflation et qu'on continue à payer des intérêts à 13%, ben, on perd 7% par an.
Et la grosse différence avec maintenant, c'est que maintenant, tu peux renégocier tes taux.
Mais en plus, ça, ça
existe pas. À l'époque, c'était impossible. Jamais, ça ne serait même pas
réalisé. Ça, c'est une chose qui est vraiment, super. Bah, les gens qui veulent se lancer aujourd'hui, c'est presque facile, quoi.
Par contre, je pense que la difficulté, c'est que ça a tellement monté dans les bons emplacements. Je ne sais pas. Mais il y a des... Je pense qu'il y a des villes en devenir.
Oui, bien sûr. Il y a des bonnes affaires de tout temps, je pense. Après, il faut s'adapter au marché, je pense.
Il faut s'adapter au marché. Le marché, c'est le F2, ce minimum, c'est pas le studio, enfin, sauf pour les étudiants.
Je lisais un article de quelqu'un qui a acheté en Amérique centrale. En fait, il achète là où le Starbucks s'implante.
D'accord.
Parce que le Starbucks fait une étude de marché pour savoir s'il va y avoir de la clientèle.
Okay.
Et donc, il s'implante dans des endroits où l'économie est florissante, d'accord, où les gens affluent. Et donc, forcément, il y aura de la demande de location, il y aura des acheteurs, etc. Et la personne investit là où Starbucks investit.
Ok. Ça, c'est intéressant. Bon,
ça lui évite de faire l'étude de marché. Parce que c'est vrai que si on investit dans des endroits où il y a un développement, ça va marcher.
Il suffit de prendre le même principe que Starbucks.
Oui, tout à fait. Hein, tu regardes McDonald's qui s'implante
un peu partout. C'est pas la même clientèle, hein,
mais n'empêche que, effectivement, souvent, les grandes chaînes, ils vont s'implanter pas avant que ça explose, pas après, mais vraiment au moment où eux, ils vont étudier la chose. En général, ils ne se plantent pas.
Il faut être quand même bien informé.
Mais
c'est bien les gens qui savent. De toute façon, j'ai toujours dit, moi je suis une fille et petite fille de gens qui investissaient, pas forcément pour gagner, mais pour avoir un patrimoine de pierre.
Hein. Okay.
Et je disais, quand j'ai vu ce qu'on a perdu avec les actions, et je me dis, si ça avait été en maison, pierre sonnante ou trébuchante, j'avais au moins un toit, il y avait quelque chose qui me restait. Psychologique, ça.
Et ouais.
Tu dis, il y a du concret.
Et même si l'immobilier baisse, il ne va pas forcément baisser de
30%.
Voilà. Il y a le loyer qui reste, il ne va pas forcément baisser.
Mais ça, c'est pas très moderne de dire ce que je dis.
C'est complètement en actualité. Hein. Effectivement, la pierre, ça reste dans un placement qui est vu comme l'un des plus sûrs. Et justement, si la bourse s'effondre, l'immobilier, il y aura plus de tampons.
Tu prends pas le risque pareil.
L'action, une fois qu'elle est plus là, c'est terminé, quoi. L'immobilier, on a quand même la pierre. Pierre autour.
On a besoin du côté rassurant
aussi d'investisseur.
En fait, on a eu la chance, c'est d'avoir quand même des parents qui avaient cet esprit. Alors, pas riches, hein, des besogneux, comme moi, c'était commerçant, toi, ton papa est artisan, par là, mais ils capitalisaient avec leur petite maison. À l'époque, son papa, donc ça partent de longtemps, il y a 100 ans, pas tout à fait 90 ans, c'était l'époque des garages.
Ouais.
Et mon père voulait faire pareil, il ne se connaissait pas.
On construit 40 garages. Il louait 40 garages.
D'accord.
C'est
des stationnements.
Ça faisait un revenu considérable sur 40 garages.
D'accord. Donc à l'époque, il y a 100 ans, ça.
C'est vrai qu'ils avaient 30 ans.
Ouais, les années 30, 40.
Ça fait dans les années 60, on va dire.
Oui.
Ok, les années 60.
Voilà, les années 60.
60-70.
Il y avait des immeubles PHLM qui avaient été construits en face.
Ouais. Mais ils ne mettaient pas de parking, ils ne mettaient rien.
Et c'était des parkings extérieurs à l'époque.
Mais à peine.
Et puis, donc, ils avaient fait des garages fermés sur le, parce qu'on avait, ils avaient
un grand terrain. Autour, voilà.
Et ils ont construit 5 premiers, puis encore 5, puis encore 5, puis en dernier.
Il les a pas mal vendus.
Ils ont et pour faire les derniers, ils ont construit une maison par-dessus parce qu'ils ne pouvaient pas mettre des garages en front.
Ouais, excellent.
Donc, ils ont construit.
C'était à quel endroit, ça, quelle ville?
Ça, c'était à Roubaix.
Roubaix, ok.
Quelle ville maintenant?
Mais ça, c'est pareil. C'est un marché. C'est la ville la plus pauvre de France maintenant, Roubaix.
Ah ouais. Alors, c'était la vague, à l'époque, c'était la vague industrielle.
C'est-à-dire que là, il y avait ce débouché-là, malgré que tout le textile, etc., tout ça, c'était.
Ça commençait à faire la vérité.
Malgré tout, comme il y avait ces barres d'immeubles qui étaient là, il y avait des gens qui
voulaient aller à la demande
des garages. Parce qu'il y avait déjà du vandalisme. Il y avait du vandalisme sur les peintures et donc les gens voulaient.
Il y avait déjà là-bas à Roubaix.
Ah ben, il y avait des HLM, quoi. C'était quand même là où il y avait des loyers modérés. Il y a des gens qui.
Ah ouais, ce qu'on. Ouais, j'en ai entendu parler, la stratégie d'acheter des garages. Et... C'est intéressant de voir que déjà, à cette époque, il y avait des opérations comme ça.
Puis ils ont eu des petites maisons aussi.
Oui,
ils ont eu. Et en Bretagne, ils en ont eu aussi. Oui. Et puis mes parents, pareil. Un petit peu moins, peut-être. Si. En fait, à un moment donné, ils ont acheté, on était trois filles et un gars. Dans l'ancien, c'était souvent dans l'ancien que c'était abordable, un appartement par enfant. Okay. Alors ils le louaient tout ça, et puis à un moment donné de leur vie, quand les enfants ont eu 30 ans, ils ont vendu et donné à chacun un appartement, la valeur d'un appartement.
Super, ça.
Leur but, c'était de faire un patrimoine et la mentalité commençait à évoluer en disant autant le donner tant qu'on est vivant.
Et ouais,
Vois. Alors qu'avant, non, c'était à l'héritage.
Ouais, à l'héritage.
Pas trop. Donc tu vois, ça évoluait déjà, mais c'était dans l'immobilier.
Ouais, les dons du vivant, en fait. Hein.
Pour eux, donner, c'était comme si donner à leur enfant un toit, quoi.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, c'était peut-être symbolique. Enfin, ils savaient que ça garderait de la valeur.
Sachant que de nos jours, comme si des donations sont, enfin, les successions sont imposées assez fortement. Et aujourd'hui, les dons du vivant sont exonérés d'impôts sur certains montants. Ouais. Et donc, ça, du point de vue fiscal, ça incite les gens à donner ceux qui ont beaucoup de patrimoine, notamment, ont déjà donné une partie, quoi.
Ouais.
Ça, c'est intéressant aussi. Voir l'évolution dans le temps de ça.
Oui, c'est ça.
Et je voudrais revenir un peu sur. Est-ce que vous avez des anecdotes sur. Alors, la vente aux enchères, c'est intéressant. C'est quoi, par exemple, la meilleure opération que vous avez faite en achat-revente sur une vente aux enchères? Dans toute votre
vie. C'était du 50% au centre-ville.
Ah oui, au centre-ville.
Parce qu'en fait, il y avait deux maisons sur un même terrain.
Ouais.
Qui ont été vendus
sous-évalués,
et donc on a pu séparer les deux maisons.
Et donc ça ne s'est pas monté parce que c'est là que c'était terminé. Il y en a eu.
Okay.
Le toit était terminé, on a fait venir des spécialistes. Donc il ne faut pas hésiter aussi à avoir recours aux professionnels.
Bien sûr,
comme je disais qu'on faisait tout nous-mêmes, mais quand même.
Ouais, ça c'est particulier, les thermites, il faut vraiment.
Et là, vas-y, continue.
Oui, donc en fait, par exemple, il y avait un chauffe-eau commun pour les deux maisons.
Ok.
Donc on prend les tuyauteries, on les met sur une maison et puis on met un chauffe-eau sur l'autre maison.
Okay. Ouais, voilà. Donc, il y a eu du gros travail.
On a
fait une maison presque
de là. Il y avait une qui était en bon état et l'autre était termité.
Donc il a fallu
mettre le béton, il a fallu refaire le béton à la maison.
Ok. Les termites dans le béton, du coup.
Oui. Les termites dans le béton.
Ah oui, on a tout fait avec un spécialiste qui a fait des trous. Là, ça nous a coûté cher.
Ouais.
faut pas hésiter à investir. En plus aussi, une chose qu'on a donné de la couleur aux maisons. Okay. Parce que nos voyages aux Antilles et tout, on a trouvé que c'était un peu tristounet ici. Certaines maisons, donc on a fait des maisons un peu roses, un peu de couleur.
Donc, grosso modo, vous achetez cette maison à Magenta, c'est en plein cœur de Nouméa.
C'était pas Magenta, c'était pas la peine.
C'est pas très grave, le quartier de Nouméa. Et du coup, c'est à quelle époque ça? C'est un
replacement. Ça, c'était il y a une quinzaine d'années.
Oui. Et donc, à l'époque, ça coûtait combien une maison comme ça? Si on peut donner des chiffres.
18 millions.
Je sais qu'on en a vendu une.
L'ensemble 18 et
en. Ce que vous avez acheté, vous, en fait.
18
millions.
Je suis sûr que 18. Et on a dû avoir, avec les frais, 19, quelque chose, 19, 5. On a vendu une des maisons 18. Donc, okay. Ça veut dire qu'on a fait la culbute presque.
Ok.
Pas tout à fait, parce que les
vous en avez acheté deux pour 18 millions. En gros, c'est quoi? C'est 150 000 euros à peu près. Enfin, aujourd'hui.
C'est ça,
aujourd'hui.
Mais on vous avez retapé. Pas notre travail.
Ouais.
Du coup, ça vous fait un budget de travaux de combien avec les professionnels de la thermite?
Un 2 millions au total.
Un 2 millions à l'époque. Et on travaille les travaux. Pas grand chose.
On n'a pas fait la culbute, mais c'était pas loin.
Et du coup, la suite d'histoire, c'est quoi?
On a vendu la deuxième pour. 17 ou.
18, 19, oui. 17, je crois.
C'est un 17 et le 18.
Quasiment aussi bien le temps, quoi.
Voilà.
Et en quoi?
Et c'est la chance en 15 jours.
En 15 jours, hein.
Parce qu'elle était belle, on avait vraiment, vraiment bien, bien mis du cœur.
150 000 euros de plus-value en achat revente.
Ouais.
C'est ça.
Mais là, c'est un coup de bol. Hein.
Un coup de bol, mais c'est au disant, c'est là où vous avez. Et comment ça s'est passé? Vous étiez tout seul à l'acheter ou
Oui.
Vous étiez là au bon moment, au bon endroit,
parce qu'en fait, c'était une maison occupée, donc personne ne voulait plus ou moins l'acheter, quoi, parce que quand c'est occupé, il faut attendre que la personne parte.
Puis la dame, elle avait pris déjà elle partait, elle avait déjà. Elle a eu. Comment dire? Elle a été à la SIC, hein, c'est ça.
Ouais.
Et donc, elle a déménagé assez vite.
D'accord.
Donc on s'occupait d'une maison et puis elle a fait son déménagement, elle est partie.
D'accord.
Par contre, il y en a une autre qui a bien marché, c'était à F1, c'était à une société qu'on n'a jamais connue, voilà, et il y avait un canal dedans. Et je pense que personne pour ça n'en voulait. On a été le voir, ce petit monsieur, c'était un monsieur retraité de la SLM.
D'accord.
Mais gentil, j'ai dit, écoutez, nous, si c'est nous, jamais on vous mettra à la porte. Il payait bien.
Ouais.
Hein, il avait. J'avais été voir, comment dire. Il m'a dit, donner les références des gens, voir. Parce qu'il payait. On n'a rien compris. Il payait directement à la gardienne.
Ok.
Je ne sais pas, c'est des immeubles où il y avait piscine, tennis, hein.
Ok.
Quand même. Et on lui a dit, si c'est nous. C'était un peu lamentable de propreté, mais bon, on s'est dit, allez, on y va quand même, on y va.
Et ça, c'était aussi une enchère.
4 millions 5. Pardon ?
Ça, c'était une enchère aussi.
Oui. Okay. C'était pas rien de la société.
Personne n'en voulait.
On a payé 4 millions 5. Ce petit monsieur, il a payé réglo, il était hors de... Ça, tu vois, j'aurais pas pu. Du moment qu'il réglait, autrement, je préférais pas acheter. Et après, il est décédé, on a pensé un jour, sa fille était là, sa fille un peu âgée, puis elle n'a pas voulu rester, donc on a récupéré la part. Là, c'était mal foutu le F1, donc j'ai eu l'idée de prendre une entreprise, et il a de très bonnes idées, et moi j'ai dit, c'est pas logique. Tu rentres dans une cuisine pleine de gras et tout, tu vois, tu rentres avec un petit couloir, voilà. Ensuite, tu avais la salle de bain et la pièce unique. Et par contre, une sorte de petite terrasse près de jardin où il y avait la vue sur la mer, plus ou moins. Mais je dis, moi, c'est bien, les tennis, la piscine. Moi, j'ai dit, c'est pas logique. Donc, on a fait casser, la, on a mis une belle salle de bain. Les gars, j'ai dit, vous mettez quelque chose de moderne.
En fait, on a inversé la salle de bain, la cuisine.
Okay.
Voilà, on avait cassé tous les murs. Hein.
Que ce soit plus accueillant, plus logique. Et
ben, hein. Non, que la cuisine, aux normes.
Aux normes, tout simplement.
Aux normes de maintenant.
Et la cuisine, elle loue, moi, sur la pièce principale.
Tu ne fais pas la cuisine et tu vas dans le couloir et tu vas dans le séjour avec tes plats. Et eux, ils ont une super idée, ils m'ont fait tout le carrelage, ça, ça coûtait cher parce que c'était avec la terrasse fermée.
Okay.
On
fait
fermer la terrasse. Ah, c'est ça, et un deck en bois sur la terrasse.
Ouais. C'était dans quel quartier
ça,
ça, c'était Magenta.
Magenta.
Oui, alors, avant qu'on fasse les travaux, t'en voulais 11 ou 12 millions. J'ai dit, non, il faut faire des travaux, il faut dépenser deux briques s'il faut, tu vas voir combien on va avoir. J'ai eu raison, on a dépensé les deux briques. Hein.
Ça va vite, hein. Hein. Dès qu'on a un peu de carrelage et une cuisine à faire,
on a fait
un
mur.
Ouais,
grosso
modo, 20 000 euros. Quoi.
Voilà, il dit on s'embête pas, on vend 12 millions. Mais les gens maintenant, ils veulent pas faire de travaux, ils veulent rentrer. J'ai dit, on n'arrivait pas à 12 millions à la vente, on n'arrivait pas. Hein. J'ai dit, ils veulent rentrer, on fait ça. Il m'a écouté, on l'a vendu 16.
Ok, bah écoutez, là, c'est super.
Là, et sans rien faire nous-mêmes, si on décidait, on avait un deal, on achetait le matériel.
Okay.
Ça, on économisait, puis on choisissait ce qu'on voulait. Bon,
pareil, super plus-value. Là.
Alors là,
parce que finalement.
Mais elle était énorme parce que
on a
4 millions 5 plus, quand même, là, il y a des frais en adjudication
à temps. Ouais.
Hein, donc ça faisait peut-être 5 ou 6. Hein.
Ouais.
Toute la location pendant au moins 3 ans, hein. Trois ans.
Et ouais.
Et bien, moi j'ai même
du coup, super rentabilité juste en location.
Alors là, j'avais augmenté, ça devait être 85 000, mais il y avait des grosses frais de copropriété, 20 000.
Ok.
Avec la piscine, le tennis, qui
oui.
Ce monsieur s'en foutait complètement.
Ouais.
T'imagines 3 ans.
Oui, effectivement.
Pour un achat.
Il y a. Ouais, bah, faudrait qu'on calcule.
Mais là,
ça
c'était
fait
un bon
12%.
C'était un
truc comme
mais
ça.
Mais on a été voir le monsieur avant. Je vois à qui j'ai affaire.
Ah, ok.
Et la maison du Mont d'Or, l'autre maison du Vallon d'Or, pareil. On a été voir. Et on a embauché le gars, même. Parce qu'il n'avait pas de boulot. Non seulement il déménageait parce qu'il était expulsé, mais nous, quand on a acheté, on a rajouté une cuisine extérieure en béton et le gars, c'était un peu son métier, on dit bah, si vous voulez, on vous embauche, c'est vous qui allez faire le travail.
Ok.
Je te jure.
Vraiment, un bouche à oreille, l'opportunité de rencontrer la personne.
Et voilà. Et on a bien gagné sur celle-là.
Il y avait tous les murs
qui s'écoulaient là.
Donc si je résume un peu.
Excuse-nous, mais on revit des choses.
Ah, bah c'est génial.
Vit,
ouais, c'est top, c'est top.
Mais il faut le faire. Moi, je crois la clé du succès, il faut le faire avec amour. Il faut aimer ça. Et quand tu commences à plus aimer à faire les travaux et tout, si tu continues, il faut embaucher du monde.
Et des
jeunes, moi j'aime bien poser. Parce qu'ils se lancent, c'est pas facile, mais ils sont bons, c'est des bons pros. Et je préfère, même si je peux le faire, tu vois, peindre ici, bon ben j'aurais mal au dos, mais je préfère l'embaucher. Parce que je dis, ben nous on était plus jeunes, on a gagné, on a réussi, c'est comme si on aidait. J'ai pas l'impression de perdre d'argent avec ces gars-là.
C'est du donnant-donnant, et comme tu dis, avec amour.
Oui, puis lui aussi fait tout. Tous ces gars qu'on a, on était fidèles. Hein. Il faisait tellement comme s'il participait pour nous, que ça soit bien.
Ouais, comme des amis,
Ils sont formidables. Formidables. Hein. On avait un petit groupe.
Tu dis, rencontrer les bonnes personnes, avoir ces liens de confiance.
Ça, c'est... Personne ne le ferait, c'est parce que c'est l'autre.
Et du coup, donc déléguer effectivement, et puis ce que je remarque, c'est que vous étiez là au bon moment, au bon endroit, et vous êtes allé aussi dans des endroits, dans des choses où personne ne voulait aller. Quand c'était super fermité, quand c'était compliqué, il y avait des divisions, vous avez divisé des terrains, vous avez divisé des maisons.
Oui, il était fort pour
Et vous avez du coup, c'est avec ces stratégies. Est-ce que vous avez eu d'autres stratégies, je ne sais pas En fait, un peu comme ça.
La stratégie d'un grand terrain, c'est pas bête.
Soit de diviser, ce qu'on a fait aussi au Mont d'Or, là, c'est on a pas divisé parce qu'on n'a pas revendu, mais en fait, j'ai vu que sur le terrain, on pouvait faire une deuxième plateforme.
Ah oui, bah, c'est ça qu'on a gardé.
On a construit, j'ai construit quasiment presque complètement moi-même une maison complète. En fait, j'ai acheté la structure qui a été posée par celui qui avait fabriqué la structure. Et moi, donc il n'y avait que des
tout en bois.
Et on a tout fait en bois.
Donc ça, c'est un bout de terrain que vous avez divisé et que vous avez conservé, en fait.
On a
acheté par adjudication
la maison,
une maison avec un terrain.
Un bout du terrain était
inexploité, en fait.
Un petit peu décalé, désencaissé.
Okay. C'est un terrain en pente.
Il a fallu redonner de l'espace au terrain. Tu vois, tu n'avais pas assez d'espace.
Donc, il fallait faire un terrassement, en fait.
Voilà. Alors, l'intérêt, c'est qu'elles sont décalées, ni l'une ni l'autre se voient.
Et elles ont une très belle vue, en fait, sur le wagon, quoi. C'était l'intérêt.
Alors, ça, c'est vraiment beaucoup.
On dort sud, donc on est vraiment sur les hauteurs, hein, pour les auditeurs qui connaissent ça. Il y a vraiment une belle pleine vue mer.
Mais beaucoup de travail.
D'accord.
La pente, il y avait eu des éboulements. Enfin, il faut vraiment, vraiment. Moi, je trouve que l'erreur, c'est qu'on n'a pas mis assez d'argent au départ pour, dès le départ, moi, je lui ai dit, faire des sortes de murs de. Pas de soutènement, mais au moins, voilà. Il a pas cru que ça pouvait se dégrader. Donc, on a dû après, ça nous a coûté plus cher de faire après. Donc, dès le départ, prévoir les problèmes qu'il peut y avoir, les anticiper.
Ok.
Et après, maintenant, c'est parfait. On a fait venir une entreprise, des bois, on a planté du vétiver. Dans les pentes, etc.
Ok, ouais, pour stabiliser l'érosion.
Stabiliser déjà. Tout ça, c'est parfait maintenant. Okay. Mais par économie, je pense qu'on aurait pu le payer, hein, mais on ne pense pas qu'on va avoir des frais pareils. Par méconnaissance,
c'est la première fois.
Un peu endettement, n'est-ce pas?
Après, c'est des choix.
Moi, je voulais. Hein.
Plutôt on termine, plutôt on peut louer, plutôt il y a des rentrées d'argent.
C'est
vrai que.
Parce que après, les gens.
Du coup, vous avez construit cette maison en bois.
Oui, complètement. Voilà. Mais l'autre, on l'a retapé quand même aussi. Hein. Et on vient juste de transformer la cuisine, la moderniser. Okay.
Donc ça, c'est des biens que vous avez encore aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Vous louez, quoi.
Il y en a une, les deux, on nous a demandé à chaque fois les locataires de les acheter. Ils veulent les acheter. Mais nous, il y en a une qu'on gardait pour nos vieux jours.
Ok.
Je ne sais pas si ça se
la met en location et.
Voilà. En fait, c'est très bon rapport parce que
nous, on a envie de changer.
Des achats par adjudication et puis tout ce que j'ai construit par moi-même. La maison que j'ai rajoutée, elle m'a coûté à peu près 6 millions.
Ouais.
Donc, et puis c'est
en construction neuve.
Là, tu peux la vendre 30 millions, 25, on va dire. Parce que
comment tu as fait pour construire à ce prix-là?
Tout simplement, c'est du bois qu'on a mis à l'intérieur, à l'extérieur.
Du bois qui.
Tu parles de la maison complète ou juste la rénovation?
Bois plein.
Non, c'est pas la rénovation, il y avait une structure métallique sur laquelle on a posé des murs, un toit.
Ok.
Par exemple, la toiture, j'ai pris des tôles isotechniques là, qui sont isolées.
Ouais.
Donc elles sont d'un seul tenant, donc il n'y a pas de. Sinon, il y a deux côtés, il y a deux pentes à la toiture, mais on a fait la toiture en une journée, ça se monte en une journée.
Ouais, d'accord.
Par contre, l'arrière, comme on voyait que la terre était rouge et tout, c'est du béton, hein, quand même.
Non, c'est des fibres au ciment, des plaques
de fibres au ciment, par contre. Et on a fait une couleur un peu comme la terre, pour pas qu'on y ait trop.
Sinon,
totalement enduit ou carrément peint.
Voilà.
Et après, ça a été peint.
Après, ça a été peint.
D'accord. Donc, vous avez, d'une structure à l'abandon, en fait, vous avez refait une maison, quoi.
Non, en fait, elle n'était pas à l'abandon.
Non,
c'est,
on l'a fait venir, la structure.
En fait, j'ai vu un jour une annonce pour une structure comme ça, pour, je sais pas combien c'était, la vente de la structure.
C'est pas, c'était pas
Et puis, j'ai dit à la personne, bon, ça m'intéresse, votre structure, mais est-ce que vous
la montez? C'était une structure d'occasion, en fait.
Oui, c'était.
Mais c'était une entreprise, non, elle était neuve.
Oui,
Elle était neuve, mais elle était déjà faite, c'est pas sur demain.
D'accord.
Mais
en fait,
elle était déjà là. Je pense que c'était une entreprise qui Quelqu'un avait dû le lâcher, il avait dû commander cette maison et le lâcher. Mais elle était déjà construite.
Ok, ok. Vous l'avez démonté.
Et le gars, il t'a pas aidé un peu à la poser.
Ah, le gars, il a tout monté.
Il
a mis bien l'aplomb, etc. Donc après, moi, j'ai fait tout toutes les garnitures, l'intérieur, l'extérieur, le toit, toutes les portes, etc.
Et alors moi, un truc, mais je ne sais pas si maintenant on pourrait, j'ai trouvé à la brocante, au brocanteur, il y avait un brocanteur qui n'existe plus maintenant, une cuisine entière en bois de...
Kaori.
Comment ? Kaori. Okay. Tout en kaori massif.
Ok, donc super joli.
Je l'ai tout décapé, poncé, voilà, et j'ai retrouvé sa couleur, etc. Enfin, elle était encrassée, tu vois.
Ouais, ouais.
Tout, et on l'a adapté vraiment.
Ok, super.
Et alors, j'ai eu peut-être ma cuisine. Là, celle-là, je l'ai eu pour plus cher, 120 000, tu vois.
Ouais.
Mais tout en kaori.
Ouais, donc c'est des trucs déjà qu'on ne fait pas et qui a un certain charme.
C'est trop bien, quoi. Et à l'époque, j'étais assez brocante, assez Puis maintenant, ici, c'est pas...
En fait, on voit les petites annonces, quoi, finalement.
C'est au Canada que tu trouves des trucs.
Okay.
Ah, à tomber par terre.
Ok.
Oh là là.
Et ben, c'est intéressant aussi, on peut faire un petit aparté sur vos biens à l'étranger.
Oui, qu'est-ce qui vous a
amené à investir au Canada, par exemple?
L'Espagne, c'est fini, c'est vendu.
L'Espagne, c'était parce que vous avez des affinités avec l'Espagne et vous vouliez aussi passer vos vacances là-bas?
À l'époque, on pouvait y aller pour quelques jours, ou même un week-end prolongé, on partait en Espagne.
Ouais, quoi,
c'est ça.
C'était un peu comme une résidence secondaire, quoi, un peu comme.
Voilà, tout à fait.
C'était comme découvrir notre façon de vivre.
Ça, c'était quoi, dans les années?
Eh bien, c'était toujours dans les années 80.
Attends, t'as dit qu'on était né 78-80,
oui. Ok, ouais, c'était
vraiment ça. Entre 80 et 88.
Voilà. Oui, c'était quasiment le premier investissement, un appart à maison que tu avais déjà.
En fait, la maison, après la Corse, c'était un très bel investissement.
Ok,
ouais.
Pas de travail, là, tout à crédit, enfin, peut-être un petit... Là, c'était notre plus gros crédit.
Okay. Ouais.
La Corse. Mais là, on y a été beaucoup parce qu'après, on avait un petit voilier.
Voilà. D'accord.
Et donc, après, le troisième, ça a été l'Espagne. Parce qu'on avait envie de soleil.
Ouais, je comprends. Et du coup, vous avez finalement revendu, c'est ça. Et vous êtes.
On a bien revendu la Corse. Hein.
Ouais, c'est ça que
vous avez dit. Très, très bien, mais pas
l'Espagne.
L'Espagne, ça a été dur parce qu'on s'en est pas occupé de nous-mêmes. Okay. Je pense aussi que ça a fait.
Et puisqu'on a
mauvais contexte.
Je pense qu'on a acheté un petit peu au-dessus du prix que ça valait en Espagne.
Oui, peut-être.
À l'époque,
oui, c'est pas mal.
Une méconnaissance du marché.
Voilà, on ne connaissait pas du tout le marché.
J'allais dire, quelquefois, tu ne connais pas les.
C'est pas évident.
C'est un peu comme le Canada, tu ne connais pas les.
Donc là, sur ce coup-là, vous avez peut-être pas si bien vendu qu'ailleurs. Du coup, vous avez eu des super opérations à Nouméa, peut-être des moins bonnes.
Voilà.
Mais au final, vous avez fait votre
c'est
expérience.
C'est toujours positif.
Oui.
Et...
Toujours positif.
En fait, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est surévalué, sous-évalué, est-ce que ça va bien se louer, est-ce que c'est un endroit où ça se loue bien.
Surtout, est-ce que ça va garder sa valeur.
Est-ce que ça va
prendre de la valeur, mais au moins, est-ce sûr.
Et ça, maintenant, vous avez un feeling aussi d'investisseur, je dirais, vous détectez un peu ces...
Avec les erreurs.
Ouais,
c'est non, c'est ça. En fait, quand on achetait ici, moi, j'avais fait un tableau avec toutes les petites annonces. Le F1, ça valait tant en moyenne, le F2, ça valait tant, la maison tant, le terrain, tel endroit tant.
Donc, tel endroit.
J'avais une idée de ce que ça valait. Et donc,
allez, on apprenait par nous-mêmes, mais bon, on a fait des erreurs, hein.
D'accord, oui.
Ouais.
C'est vraiment le parcours de l'auto-entrepreneur et l'auto-investisseur.
Voilà. En fait, on s'est
fait. En fait, il y aurait eu Internet avec peut-être plein de plus de réponses à nos questions sans courir à droite à gauche. Peut-être qu'on aurait certaines erreurs, on les aurait peut-être pas faites.
Ouais.
Mais bon, on apprend avec les erreurs. Alors, de toute façon, c'est toujours bon une erreur.
Exactement.
Oui, c'est ça.
C'est bien ma philosophie.
On a beaucoup appris par les erreurs, ça c'est clair.
Ouais,
il faut en faire.
Maintenant, je pense qu'on peut se former en faisant beaucoup moins d'erreurs, je crois.
Oui, mais il faut toujours se tenir au courant de la modernité, de ce qui change et tout.
Bien sûr.
Ouais. Moi, vraiment, je suis vigilante parce que les goûts des gens, c'est plus les mêmes. L'état d'esprit, c'est plus le même. Tu vois, prenons un autre exemple, toujours dans l'immobilier. Quand on a commencé à louer, mais on n'entendait jamais parler de colocation. Tu vois, la colocation, nous, on a commencé à en entendre parler au Canada. Parce que nos petites filles sont allées faire leurs études au Canada. Donc nous, on est allés pour leur trouver des chambres et tous les élèves montaient les matelas dans les trucs. Mais elles avaient une chambre et tout le monde faisait de la colocation à Montréal. Tout le monde. Enfin, beaucoup de jeunes, même des gens âgés. Et depuis, ça a pris un essor ici, mais en quelques années, la colocation. Cinq ans, six ans. Mais avant, il était hors de question que les gens fassent de la colocation.
C'était pas du tout dans les mœurs, ça.
L'état d'esprit a changé.
Et du coup, ça vous a amené à aussi en faire des locations en colocation. Non, vous n'êtes pas lancé là-dedans.
Non, mais c'est pas qu'on s'est lancé, mais on n'a pas des. À part les deux maisons, ce qui nous reste, c'est pas des grandes maisons qui nous permettent. C'est du F1 et F2.
Et du coup, ce qui vous a amené à investir au Canada? C'est un voyage?
Non, en fait, c'est parce qu'on a
ça, c'est autre chose.
Qui habite là-bas. Donc, là aussi, on a acheté par coup de cœur pour être à proximité de lui, en fait.
En fait,
c'est une espèce de maison familiale au Canada.
Là, c'est un autre état d'esprit. On a toujours eu des maisons de famille. Mes parents en bord de mer, toute la famille se réunit, tu vois. Et là, mon fils a eu des jumeaux, après un troisième, mais à l'époque c'était pas ça, et il était à Montréal, donc il vivait, il travaillait là-bas et tout, et à une heure de là, et on y allait pour les aider, parce qu'en plus il pilote, donc sa femme était seule à la naissance, enfin tu vois, donc on voyait qu'on y allait beaucoup, et moi je suis très indépendante, mais vraiment très indépendante, et donc j'ai dit, on va voir nos petits-fils. Il faut les voir grandir. Donc, tous les ans, ça va être trop dur. Donc, on a eu un coup de cœur à une heure de Montréal, dans une petite ville qu'on adore. Et on a acheté une maison. Et ça s'appelle en truc de crédit.
Reprise de crédit. Au lieu de dire une adjudication, c'est une reprise de crédit.
Reprise de crédit, ça s'appelle. Mais on n'a pas repris à crédit, on a acheté cash parce que nous, on n'avait pas le droit au crédit. Les étrangers.
Je voulais vous poser la question du coup.
Alors voilà. Alors.
Il fallait acheter cash en tant qu'étranger.
Alors on avait ce qu'il fallait, donc vu notre chance qu'on a, on s'est bien débrouillé.
Ouais, vos économies quoi.
Voilà, vos économies. Donc, on s'est dit, c'est la maison de famille de là-bas. D'autant que mes petites filles ont été faire leurs études là-bas. Donc, il y en avait deux autres là-bas. Alors, ça marchait 7 ans. Et puis, le fils a eu une offre fantastique à Toronto, 600 km. Et ça fait 3-4 ans qu'il ne va plus. Donc, on revend. Alors, l'inconvénient, c'est toujours quand tu n'es pas sur place.
Donc là, c'est...
On a essayé de louer.
Vous l'avez gardé 7 ans.
7 ans. Mais alors, les choses qu'on ignorait, c'est qu'au Canada, en montagne, il faut qu'on aime bien le pays. C'est très coté, la ville est très très cotée.
Montréal, je parle de Montréal.
Pas Montréal où on était, Saint-Sauveur.
Ça, c'est Saint-Sauveur.
Saint-Sauveur, c'est à 1 heure de Montréal, c'est les premières pistes de ski. Donc, c'est un peu dans la montagne. Les gens, ils ont tous, comme ils appellent, leur chalet. Ce n'est pas forcément des chalets en bois, mais c'est leur chalet. Donc, ce qu'on ignorait, c'est qu'en prenant une trop, trop grande maison, ce n'est pas le marché là-bas pour Saint-Sauveur, pour bien revendre. Il faut quelque chose qui soit,
un peu plus petit.
La location, ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Alors, on a eu... Et il y a beaucoup d'impôts.
D'impôt pour, sur la revente.
D'impôt autant qu'en France, voire plus. Enfin,
en location pas, sur la revente.
Impôt pour tout. Les impôts fonciers, les impôts et le problème, c'est qu'en montagne, il faut savoir qu'il faut chauffer même si on n'y habite pas, pour pas que tout éclate.
Ah ouais, bah ouais.
Donc,
ça gèle, quoi.
Ça a un coût.
Parce que c'est des températures moins, c'est quoi, c'est moins 20, moins 30. Ouais,
ouais, ouais. Bon.
Donc, ça, c'est un coût.
Ah bah ouais, si tu m'étonnes.
En plus, maintenant, à notre époque, pour louer, il faut Wi-Fi, téléphone, tout ça.
Ah ouais,
si tu loues 3 mois ou 2 mois, ouais. Eh ben, il faut payer toute l'année. Enfin, on suspend un peu, mais il faut un
ouais, et ouais.
Donc, tous ces aléas font que ça nous coûte cher.
Et ouais.
Comme les maisons sont belles et comme tous nos locataires, ben, ça fait 10 ans qu'il y a un Français qui y va. En été, ça nous paye la moitié de nos.
D'accord. Nos vous louez quand même.
Ah, il adore. Hein, il est tout triste avec sa petite famille.
Ok. Hein. Il y a les
cités pour commander sa vacance. C'est génial, cet endroit-là. Il est génial. Et là, on a voulu quand même prendre à l'année quelqu'un et on a eu une arnaque phénoménale.
D'accord.
C'est bon, alors ça vaudrait encore une soirée parce que
ouais, ok.
Il y a eu cette femme a été à la télé comme arnaqueuse et tout et on est okay. Et on l'a eu alors.
Et vous l'aviez eu au locataire.
Oh, oui, oui.
Bah
oui.
C'est justement la question que je voulais vous poser, c'était quoi votre pire galère?
C'est il y a 6 mois, hein, c'est ça.
Ah, il y a 6 mois. Du coup, c'était votre pire galère?
Non, je dis pas 6 mois. Il y a un an.
Oui, c'était l'hiver dernier.
En location, c'était peut-être votre pire galère.
Ouais.
Ah
oui. Ok.
À l'horreur, hein, parce que vraiment.
Racontez-nous un peu.
C'est notre faute. Parce qu'on a mis des annonces et puis, en fait, elles sont présentées au dernier moment. Pour résumer, c'est une ancienne avocate qui a été rayée du barreau, mais ça, on ne le savait pas. Hein, rayée du barreau et depuis 10 ans. Elle arnaque les propriétaires. C'est-à-dire qu'elle elle se présente, elle paye le premier chèque et elle ne paye plus jamais. Elle est obligée à passer par la régie du logement en te disant que ça garantit dès le début, tu vois. Or, la régie du logement la connaît très, 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 très bien. Et elle essaie de ne jamais partir.
Okay.
Donc, si tu l'embêtes, elle fait des dégâts. Et nous, comme elle a eu des procès, qu'elle était interdite de relouer tout, elle est venue, on ne savait pas qui c'était.
Bah ouais, vous
elle
vous
est venue
pas,
avec une dame de mon âge, mais la petite mère, tu vois, un peu bedonnante, mignonne, donc tu lui donnais le bon Dieu son confession, en disant que c'était sa mère. Donc elle a pris au nom de sa mère.
Ok.
Et donc, sous cette. Et sa mère, soi-disant, n'habitait pas là. En fait, c'était pour elle.
Ok.
Et ils avaient des chiens, 3 chiens qui pissaient partout. C'était l'horreur. Ouais, okay. Le problème, c'est que la police était dans le coup pour essayer de la faire sortir. Et ils n'y arrivaient pas. Parce qu'ils ont eu des tas d'histoires. Enfin, c'est compliqué si tu savais.
Ouais, ils ne peuvent pas la virer comme ça. Enfin, j'imagine si
ouais, il y a des règles qui durent. Et cette dame avait 68 ans, 67 ans. Et elle essayait de tenir 2 ans parce qu'à 70 ans, tu ne peux plus les mettre dehors.
Ok.
Donc moi j'ai eu le coup. Voilà.
Oui. Ben quoi, vous avez changé de serrure, quoi.
Après, oui, bien sûr.
Qui a fait ça?
Enfin, non, on a fait bien.
On a fait les cobras.
On les a poussés dehors.
Mais
ça, c'est la méthode corse.
Bah oui,
exactement.
Mais vous savez que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls.
Ah ouais,
il y en a qui l'ont déjà
raconté. J'en ai déjà aidé.
Ok.
Mais il faudrait que tu connaisses les détails. C'est un roman de. C'est par le barreau du Québec.
Ouais.
On a une liste comme ça de tous ces méfaits.
Ok. Après coup, du coup.
Parce qu'en fait, il y a une chose qui est bien faite quand même au Canada.
Ouais.
C'est que si quelqu'un a eu des délits dans sa vie, On peut le trouver sur Internet en
rien quand t'as pas. Elle m'a dit dire qu'il
n'existe pas. Ils sont fichés, quoi. Ils sont fichés. Quoi.
Ils sont fichés, mais on a accès sans.
Même le tout public. Monde y a accès, même toi, même moi.
À travers Internet, on a.
Base de données publique, quoi.
Il suffisait de mettre son nom. Sauf que
elle nous a donné. Mais c'est une ancienne avocate, elle connaît toutes les ficelles.
Sauf qu'elle nous a donné un faux prénom, son deuxième prénom qu'elle s'était alloué. Donc moi j'ai tapé sur Internet parce que aussi quand quelqu'un, je tape son nom sur Internet.
Ouais.
Et puis il sort quelque chose ou il sort rien. Ouais. Et là j'ai tapé son nom et il n'y a rien sorti.
C'est
tout simplement parce que j'ai pas mis
le prénom. Ah tu vois.
Mais sinon,
en fait,
parce que vous aviez quand même regardé avant.
Oui.
Donc,
mais elle avait
changé de
nom. Elle sait très bien qu'elle est fichée.
Ouais.
Ah, mais incroyable.
C'était vraiment une pro de l'arnaque, quoi. En gros, c'est un peu comme en France, si je peux dire, il y a des procédures qui sont extrêmement
C'est presque
d'expulsion.
Oui, voilà, c'est presque encore pire parce que il faut être gentil avec les gens, il faut pas leur crier dessus, il faut pas les engueuler.
Là-bas,
au Canada, il faut surtout pas les froisser, les brusquer.
À ce point-là.
Oui. Ah, donc,
Au Québec, c'est pas pareil chez les anglophones.
Voilà, c'est.
Ouais, aux États-Unis, ça rigole pas au bout d'une semaine.
Oui,
il y a des gens. Voilà. Parce que c'est leur réglementation.
Ouais. Et mon fils nous dit que maintenant qu'il est chez les anglophones, il dit que c'est quand même différent.
Ouais. Ça doit être plus
simple. Le Québec, ça se rapproche de la France, il ne faut pas bousculer.
Donc, ça, c'était vraiment votre pire galère.
Mais c'est indescriptible. Hein.
Le pire locataire, à
se téléphoner. Elle faisait semblant d'envoyer.
Vous étiez en contact avec elle, du coup?
Pardon?
Vous étiez en contact avec
elle? Ah oui, bah oui, par Skype.
Elle coupait pas la communication.
Non.
Ah ben non, parce que elle avait une technique. Elle te harcelait.
Ok.
C'est elle qui.
En fait, sa technique, c'est de trouver, de dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans la location, même si c'est pas vrai. Ah bah oui, Internet, ça marche pas bien, etc.
Pour retarder le paiement, en fait, c'est ça.
Exactement. Donc elle trouve quelque chose.
Elle trouvait toujours. Pour tous les gars, un coup, il y avait un gars qui avait une piscine, et elle trouvait que dans la piscine, il y avait je sais pas quoi, ou pour descendre à la piscine, c'était dangereux. Et puis.
D'accord.
Le gars, il
s'est dit. Cette histoire s'est finalement terminée. Vous avez récupéré votre bien.
Oui.
Et vous avez réussi à la vendre, la maison, vous l'avez toujours.
Ben non, là, on l'a remis en état.
Parce qu'elle avait peint, elle avait cassé, elle avait fait
peint en noir les chambres. Okay.
C'était une vraie psychopathe.
En noir.
Okay,
une psychopathe. En fait, elle s'est un petit peu.
Ok, d'accord.
Dès qu'elle a été nommée avocat, elle a commencé à appréhender tous ses clients.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Elle a appréhendé tous ses clients en étant avocat.
Et puis là-bas, on dit en vrai, mais il faudrait que tu connaisses
une longue histoire.
Là-bas, tout ce qui est histoire d'argent, c'est le civil. Ouais. Donc le civil, les gens ne sont jamais inquiétés, ils ne sont pas condamnés à quoi que ce soit. Ouais. Si on ne prend pas un avocat et qu'on démontre... Mais elle a fait 15-20 locations.
La police nous a appelés quand on est allé.
15-20 locations sans payer. Il y a un
dossier qui est grand comme...
Pour un oui, pour un non, elle appelait la police.
Mais est-ce que ça vous a découragé de l'immobilier, dégoûté
ou... Oh non, parce que mais découragé de loin. L'immobilier de loin.
Ok.
On a eu une autre galère.
Quand on n'est pas sur place, parce qu'on aurait été sur place, c'était évident que ça ne se serait pas passé comme ça.
Ça ne nous est pas arrivé. Si, j'ai ma première femme de ménage là, qui a beaucoup de mal. Qui a beaucoup de mal à payer. Eh bien, écoute, moi, c'est pas pareil. Je ne vais pas la prendre et la mettre dehors. Pas du tout.
Ouais, c'est quelqu'un qui est honnête.
Parce qu'elle travaille, elle tombe malade, il n'y a plus beaucoup de sous qui rentrent et tout, tu vois.
Ouais. Mais finalement, dans la vie, il y a des cracks boursiers. Il y a aussi des grosses galères comme ça.
Oui,
vous avez eu peut-être la pire au monde. Mais vous avez su saisir vos opportunités
pour apprendre à se défendre aussi quelque part, quoi, du coup, même si on n'a pas toujours envie de le faire, se défendre.
Ouais.
En tout cas,
la conclusion, c'est que si on n'avait pas de location, on ne pourrait pas avoir le niveau de vie qu'on a. Je peux te le dire.
Okay.
Parce que moi, j'ai 200 euros par mois de retraite.
Okay.
Parce que j'ai travaillé 10 ans, je suis d'accord, je ne vais pas pleurer. Mais on a fait ce choix en se disant, on travaillera pour notre propre compte. grave accident de la route, il a eu sa perte de licence. Donc, il a travaillé que 15 ans.
Il était pilote d'avion.
Mécanicien d'avion. Ouais.
Ok. Ouais.
Bon. Il fallait une licence de vol, etc. Eh bien, s'il n'y avait pas. Alors, il a une retraite parce qu'il a fait quand même 15 ans. Mais rien à revoir avec.
Ce que vous pouvez toucher avec vous.
On pourrait aller vivre dans un studio, c'est tout. Quoi.
Ouais, ouais.
Tu vois, jusqu'à la fin de notre vie. Bon, il y a les parents qui ont donné des petits capitaux grâce à eux, on a pu rebondir aussi. Mais donc, comme quoi, dans la vie, même un accident de la vie comme ça, ça permet de rebondir, mais il faut trouver le truc.
Ouais,
il y a sûrement d'autres astuces. Nous, on a trouvé que ça.
Ouais, bah, c'est déjà bien.
C'est
plein d'astuces.
Oui, sûrement.
Ouais.
Il y a plein d'astuces.
Ouais,
oui.
Parce que vous avez vraiment rebondi
dans
tous les côtés.
Je pense
vous avez
qu'il
testé
faut avoir
des
la niaque. Il faut croire en ce qu'on fait. Moi, je pense que quand on voit qu'on se trompe, il ne faut pas non plus insister.
Voilà.
Alors, un autre truc qui n'existait pas à notre époque et qui fait, bon, moi, ça me fait peur, je veux dire, parce que je suis plus matérialiste, c'est par exemple par rapport aux banques et aux devises.
Ouais.
Là, il a l'air de bien jongler avec ça. Je ne sais pas, toi. Alors,
ouais, c'est les marchés du Forex, en fait.
Moi, je ne suis pas du tout sur les marchés, j'ai tout simplement un compte en ligne multi-devises. Et je passe d'une devise à l'autre en fonction de ce que font les devises, de si elles montent, si elles descendent.
D'accord.
Et j'utilise celle qui monte le plus.
Ça me fait un peu peur, moi, parce que je dis, c'est un petit peu...
Je crois que c'est l'un des marchés les plus importants au niveau des échanges.
Et aussi, c'est les banques en ligne, quoi, tu vois.
Ouais, bah oui. Après, c'est un autre style de... d'investissement,
c'est
un autre risque.
Un passage que j'ai du mal à franchir, moi. Tu vois,
et qu'on est sur plusieurs devises, comme le Canada, etc. J'avais investi aussi à un moment un petit peu en Australie. Parce qu'en Australie, il n'y a pas encore très très longtemps, il y avait encore des taux d'intérêt de 6%, qui maintenant sont redescendus à 2% aussi, un peu comme partout.
Okay.
Donc j'avais investi un petit peu en Australie il n'y a pas très très longtemps, notamment pour ma mère, pour sa retraite. Et donc, j'avais pris des comptes à terme sécuritaires sur 6 ans.
Oui, ça a bien marché.
Non, ça a bien marché. Donc,
C'était l'opportunité du moment. Maintenant, c'est fini.
Maintenant, non seulement le taux d'intérêt est retombé à 2%, mais en plus, le dollar australien est en train de baisser. Parce que l'Australie va relativement mal, puisqu'il n'y a plus toutes les commandes de minerais de la Chine.
Ouais.
Et donc, l'emploi est en train de baisser.
C'est vraiment l'économie mondiale. Il faut vraiment connaître un peu tout ça.
Alors, il passe d'une devise à l'autre. Il dit, bon, l'Australie, il faut qu'on passe en...
Le dollar américain est censé...
Mais tu prends quand ça monte.
Okay.
Il dit oui, mais ça continue de baisser en Australie et l'euro aussi. Donc, comment c'est... Si j'en parle, c'est parce que je sais que tu t'intéresses aussi à ça.
Oui, tout à fait. C'est intéressant. Et puis, tous les investisseurs aussi. Je sais que les gens qui écoutent...
Alors,
tu es
sûrement plus pointu que nous dans ce domaine maintenant.
Je suis absolument débutant.
Non, mais c'est plus...
Non, mais de toute façon, en fait, par exemple, la bourse, il faut le faire uniquement sur le marché américain, avec un broker sur place. Il ne faut pas du tout jouer sur le marché français ou autre. Il n'y a quasiment rien, quoi. Il n'y a pas de choix sur le marché français. On ne peut même pas faire une vente à découvert sur le marché français, quoi. C'est interdit. Et si on met dans des SICAV, les SICAV, elles n'ont pas le droit de tout vendre. Moi, je ne savais pas, une SICAV, ça n'a pas le droit de tout vendre.
C'est la structure, en fait.
C'est la structure. Ils peuvent être en liquide qu'à 15%, je crois, sur une SICAV à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas. Donc, si le marché se plante, le gestionnaire, il ne peut pas tout vendre. Il va vendre 15% et il se plante sur les 85% qui restent et c'est comme ça, quoi. Alors qu'aux États-Unis, ou si on fait soi-même en particulier, on peut tout vendre. On sait qu'il va y avoir un crash là dans pas longtemps. Ça a peut-être démarré il y a 2 jours, là, le crash, là, sur la bourse. Celui qui sait que ça va crasher, tout le monde le dit depuis pas mal de temps, on vend tout. Et on met tout en liquide et on est sûr de ne pas perdre.
C'est ça.
Donc voilà, ça c'est la moindre des choses à faire. Et si on est en SICAV, je dis aux gens, vous avez des SICAV, mais là il y a un crash de prévu. Qu'est-ce que vous faites de vos SICAV? Vous les gardez?
Du coup, tu conseilles plutôt garder la main sur vraiment ton portefeuille.
Ah, il faut, et c'est comme très réactif. Il faut le faire soi-même. Quoi, si on passe par l'intermédiaire.
Puis tu vois, si tu te plantes, tu t'en veux qu'à toi-même.
Oui.
Que lui, il avait une dent contre le gars, je peux te dire.
Hein. Et ouais, surtout quelqu'un qu'on a fait confiance. Mais encore une fois, t'as appris.
Et le gars, il s'est planté, il devait pas être très heureux. Et là, moi, je dis, ben non, ça déresponsabilise quand tu plantes, tu plantes toi. Voilà,
tant je comprends là, après la réaction.
Parce qu'il y avait la philosophie aussi des actions, c'est sur le long terme, ça rapporte, c'est ce qui rapporte le plus.
Et ouais.
Mais celui, les actions sur le long terme, c'est ce qui rapporte le plus. Celui qui a investi sur le CAC 40 juste avant le crash de TomTom, le CAC 40 était à
6500.
Aujourd'hui, il est toujours, il est à 5500. Donc, celui qui a investi à 6500, aujourd'hui, il est à 5500. 18 ans plus tard, il est toujours perdant
10%. Ah ouais, 18 ans. 18 plus tard. Ans.
Donc, celui qui dit que, en investissant sur les actions.
Moi, je pense que c'est fini cette époque.
C'est total. Donc, investir.
Ça, ça se vérifie pas sur le CAC 40.
Après. Comment?
Tu dis, ça se vérifie pas sur le CAC 40, en tout cas.
Ah oui. Si on a tous ceux qui ont investi avant le crash des TomTom, même sur le Standard & Poor's en Amérique, ils sont peut-être non sur le Standard & Poor's, ils ne doivent pas être perdants. Mais surtout les indices européens, le DAX.
C'était le crack de 2000, tu dis?
C'était le crack de 2000, ceux qui ont investi juste avant sur les indices boursiers européens.
Mais peut-être qu'en 2000, avant le crash de 2008, peut-être que c'était remonté. Haut, du coup,
non, je crois que le CAC 40 n'a jamais dépassé 6500.
Okay.
Il est remonté à 6000, je crois, effectivement.
Okay. Peut-être que les gens ont rendu à ce moment-là.
Voilà, 6500, ils ont perdu 500 points, ils ont toujours perdu 5-10%. Et donc, si on prend les plus mauvais cas de figure, on peut ne pas gagner en bourse peut-être pendant 30 ans.
C'est ça, ouais.
Il ne faut pas dire aux gens. La bourse sur le long terme, c'est ce qui rapporte le plus.
Oui,
si on achetait au creux de la vague.
C'est ça.
Ouais. Après le crash de 2001, le CAC est retombé à 4000 ou je ne sais pas combien. Ceux qui ont acheté au creux de la vague, bon, ils sont un petit peu gagnés dans le temps. Ceux qui ont investi sur le Standard & Poor's en Amérique, ils ont gagné, non pas 5 ou 10%, ils ont gagné 40% là maintenant.
Ouais, le Standard & Poor's, c'est quoi ça?
C'est l'indice américain.
C'est quoi le SP500?
Le SP500, oui.
Ouais, c'est ça.
Oui. Donc, s'il faut investir, c'est bien en Amérique, c'est pareil, c'est les Américains qui sont à la pointe de tout. Parce qu'il faut que ça marche. En Amérique, on achète des actions à crédit.
Ouais.
J'ai jamais entendu qu'on achetait des actions à crédit en France.
Ouais, c'est sûr.
Je vais voir mon banquier pour acheter des actions à crédit.
C'est moins évident que l'immobilier. Du coup, revenons un peu.
C'est un truc de fou, quoi.
Ouais, t'es passionné par la bourse aussi, c'est un
truc. Donc, en bourse, il faut faire maintenant, il faut faire du. Bon, là, ça va cracher, donc on peut pas dire ce qu'il faut faire. Donc, il faut faire du trading.
Ouais, là, c'est
le trading où on joue
au jour le jour, quoi.
Encore l'avantage maintenant, quand t'avais commencé, tu voulais t'y mettre bien à la bourse, c'est pour ça que. Tu faisais venir les comptes rendus de chaque société.
Toutes les entreprises, mais c'est un
des entreprises, pour voir comment elles marchaient, tu vois.
Ouais.
Mais à l'époque, il fallait passer par la banque pour acheter ou vendre. Donc, le temps que tu aies
ton action. En fait,
Alors que maintenant, par Internet, tu peux tout faire toi-même.
Ouais, en une seconde, c'est ça.
C'est incroyable. Alors, moi, je trouve que. Là, c'est un atout. Peut-être quelqu'un qui s'informe.
Simplement, je peux vous poser encore une ou deux questions.
Ouais.
Aujourd'hui, combien vous avez fait d'opérations en immobilier? Est-ce que vous avez compté?
Non.
Achat-revente, ce que vous avez encore?
C'est terrible. C'est pas si.
Alors, on n'a pas tout vendu, donc on ne peut pas.
Combien d'opérations et combien il vous en reste?
Oui,
alors. Maison en location.
L'opération comme pour vivre dans sa propre maison.
Ouais.
Achat. Alors, 15.
15 opérations.
15, 16, 17, mais pas plus.
Et vous en avez gardé en
haut? Alors là, on a.
En tout celles que vous avez revendues, celles que vous avez gardées en location.
On a plus que 15.
Oui, parce qu'après on a acheté un terrain qu'on a revendu aussi. Parce qu'à un moment donné, j'achetais des terrains. J'ai acheté deux terrains que j'aménageais en fait. C'est à l'époque où on avait acheté aussi un grand terrain, donc je voulais mettre des arbres sur les terrains.
Oui, moi je pense qu'ils n'auraient pas mis.
À un moment donné, j'étais presque pépiniériste, en fait.
Oui, il adorait ça.
Décorer le terrain et rediviser, en fait, ou...
Non, mais
pas forcément, on va nous planter, parce que les terrains, en général, quand ils sont vendus par les lotisseurs, ils sont nus. Il n'y a rien dessus,
pas rien,
forcément des arbres. Donc, moi, je mettais des beaux arbres ou des graines que j'avais fait pousser moi-même.
Ouais, là, c'était le fun.
Parce que nous, comme on a acheté un terrain...
C'est super, comme on ferait chez soi, quoi.
Voilà, comme j'ai acheté un terrain qui était complètement nu,
oh non, c'était que des...
il a fallu, je me suis dit, faut planter des arbres, quoi, ne serait-ce que pour casser le vent.
Et ben ouais.
Et donc...
300-400 arbres.
J'ai, ah ouais. J'ai peut-être planté au total 500 arbres, quoi.
Ok, en combien de temps?
Ça s'est étalé sur une petite dizaine d'années.
Et l'autre grand terrain, là je me rappelle, en cocotier, on a dû en planter 300-400. Mm-hmm. Hein. Et puis des arbres partis par là.
C'est des terrains que vous avez gardés longtemps.
Ça, c'est un autre.
Oui.
Ben, nos enfants nous ont racheté une partie du terrain tellement ils adorent.
Ok. Et après, soit les gens construisaient, soit vous vendiez le terrain.
Voilà, ça,
l'autre partie qu'on a vendue, on a donné la moitié à nos enfants pour d'avance, comme avaient fait nos parents.
Donc c'était un investissement un peu long terme, finalement.
C'est ça, oui, le terrain, c'est plus un peu du long terme, il faut attendre que les prix
montent. Oui, exactement.
Qu'il y ait des possibilités de division, de faire quelque chose.
Et ce n'est pas une rentabilité permanente.
Ouais, ouais.
Mais on avait changé l'option, parce que l'option des maisons, c'était plus ça, quoi. Tu vois, trouver des maisons où tu fais une rentabilité rapide, ou le travail, ouais, c'était différent.
Et du coup, aujourd'hui, il vous reste... Combien de biens? Enfin, en gros, si on parle un peu de votre retraite, des choses que vous conservez pour votre retraite, ça fait combien de biens en tout?
On a en gros 4 maisons, donc une qui notre principale qui se divise en plusieurs morceaux, quoi.
Ok.
On va dire.
Donc, en location en partie, du coup,
oui,
sur tous ces biens-là. Mmh. Avec 4 maisons, quoi. Vous pouvez vivre.
Pas de souci, oui.
D'accord.
Complètement. Oh, oui, ça dépend.
Mais c'est bien d'avoir plein de petites choses, parce que même s'il y en a un qui ne paie pas, ou s'il y en a un qui n'est pas loué, ça se répartit sur tous les autres. C'est un
peu diversifié, plusieurs petites, pas qu'une seule grosse.
Les amis, alors un autre exemple, des amis qui vivent en Grèce là actuellement, c'est eux qui nous ont donné l'idée de l'adjudication.
Ouais.
Eux ont acheté. Eux, c'est de petites pièces anciennes, ils en ont fait des plus grands. Enfin, ils ont pris un architecte, ils ont fait faire des plans, etc.
D'accord.
Et louent à des étudiants, mais une partie, c'est la ville qui paye. Enfin,
ok, ouais, bah oui, c'est les
quarantaines. C'est énorme ce qu'ils ont comme parc immobilier, leur fille gère ça. Et il nous disait qu'il y avait une moyenne de 10% hein, de remous qui ne payaient pas, à peu près.
Okay.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et eux, c'est leur retraite, ils n'ont rien d'autre.
Ok.
Ils sont bien. Hein.
Ils ont
un bon niveau de vie. Hein.
Ah ouais. Et malgré les
impôts... Mais ils ont bien bossé, je veux dire, tu n'as pas besoin au départ d'avoir des gros capitaux.
Ah ouais.
Et eux, ils connaissent les finesses de... financière pour les impôts et tout.
On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que pour payer moins d'impôts, il y a des stratégies.
Voilà,
Et vous, c'est vrai qu'à votre époque, vous n'étiez pas trop confronté à ce problème.
Non, et puis on ne les connaît pas, et puis c'est tellement compliqué en métropole.
Ouais.
Voilà. Donc, ici, c'est relativement simple.
Ici, c'est plus simple. Mais c'est quand même pas dans du neuf. C'est là. Alors, justement, je voulais aborder le sujet d'Airbnb avec toi.
Eh ben, très bien. Alors, avant ça.
Parce que je connais pas en tant que loueur, je connais en tant que locataire.
On est dans ce bien là. On est chez vous là, Nouméa. Mais c'est un appartement que vous venez d'acheter. Vous le mettez en location, enfin c'est pour vous, et en même temps vous le mettez en location, c'est un peu aussi comme ça que vous le voyez. Hein.
Oui.
Voilà, mais pas à l'année, quoi. Oh. Okay. Voilà.
C'est hyper récent, du coup, vous venez de l'acheter. Hein. Mmh. Et du coup, on parle d'Airbnb, c'est marrant parce que justement, on parlait d'une époque, vos premiers achats immobiliers, il n'y avait pas Internet, il y a plus de 30 ans.
Mmh.
Et aujourd'hui, vous êtes sur du Airbnb, et du coup, vous avez connu vraiment toutes les technologies. Qui ont traversé les temps, mais par contre l'immobilier, lui, il est resté là, il a pas vraiment bougé. On a toujours besoin d'un toit, de 4 murs et d'une cuisine, finalement.
Ouais, complètement.
Tout à fait bien résumé.
Et c'est marrant justement d'avoir cette historique comme vous et d'expérience qu'on peut avoir des galères qui a 30 ans ou maintenant, effectivement, un jeune qui va se lancer aura peut-être des galères aussi, mais il va apprendre. Et l'idée, c'est de retenir un peu ce que tu disais, l'effet boule de neige. Bah, commencer, essayer de faire peut-être des achats-reventes au départ, faire un capital et puis rebondir de plus en plus, conserver des biens de qualité, les louer. C'est un peu ça, finalement.
En fait, quelquefois, je repense à la fiscalité, il faut faire appel à un spécialiste pour ne pas se planter.
Ouais.
Voilà. Et je pense que c'est ça le mieux. Prendre des conseils et tout, tu vois. Il y a aussi la défiscalisation, mais là, nous, on n'a jamais utilisé. Donc, ça, c'est encore un outil qu'on ne connaît pas, tu vois. C'est un outil moderne.
Ouais,
qui n'existait pas. Nous, on a continué avec nos petites habitudes, où on fait tout nous-mêmes, tu vois. La défisque, c'est un bon truc aussi, hein.
Eh ben oui, c'est effectivement.
Par contre, il y a des inconvénients, parce que ben, c'est notre agent immobilier qui nous a dit ça, enfin c'est sa femme, qu'en fait, il y en a qui prennent un défisque, mais comme il y a des règles, il faut louer un certain temps et tout.
Oui, tout à fait.
Et en fonction de l'emplacement, ils ont acheté au Mont d'Or, un peu trop grand, super bien placé, et dans le créneau de location, de prix de location que ça vaut, sans aller au-delà de ce que ça vaut, il a failli être pénalisé et ils ont loué juste au dernier moment parce qu'ils ne trouvaient pas à louer.
D'accord, oui, c'est
donc il faut trouver le bon endroit, le bon créneau.
Et oui, en fonction de la.
Voilà, il n'arrivait pas de louer pourtant.
Parce que le Mont d'Or, c'était un peu décoté. Peut-être les gens avec.
Et après, côté, il paraît que l'amende, elle est. Enfin, la pénalité est très.
Oui, ça rigole pas.
Mais je donc, pense que... ça, c'est quand même un truc à savoir.
Ah, faut bien maîtriser, ouais, tout à fait.
Bien maîtriser, et puis pas prendre n'importe quoi, n'importe où, parce que c'est de la défisque. Puis quelquefois, c'est peut-être un peu monté les prix, je ne sais pas.
Tout à fait, ouais. Est-ce que je peux vous poser trois questions que je pose à chaque fois, à chaque interview, en fait? La première, c'est est-ce que vous pouvez citer une référence qui vous a inspiré, un livre ou
Site
internet, c'est des amis, vraiment, c'est une j'aurais.
Toi?
Moi, en fait, maintenant, je suis pas mal de petits trucs sur internet. Donc, pour voir un peu ce que je pense les gens qui sont vraiment plus pointus que moi maintenant. Et donc, voilà, il y a des trucs que je suis, oui. Okay. Sur internet.
Mais dans l'immobilier, on parle.
Une référence à nous partager.
Sur l'immobilier. Dans l'immobilier.
Ou sur la bourse, si tu n'as pas d'idée.
Il y a Objectif Eco, moi, que je suis. Je ne sais pas si tu connais.
Donc, c'est un site internet.
Oui, c'est un site internet, Objectif Eco.
Voilà. Et puis, il y a aussi les gars, là, qui parlent beaucoup. Là, je t'entends, je te vois, ils regardent.
Ça, c'est après, je suis aussi un Canadien, là, Immeute, ça s'appelle.
D'accord.
Donc, aussi, il y a des bonnes idées, c'est en français. Et puis, il parle aussi à la fois de ce qui se passe en Amérique et de ce qui se passe en Europe. Donc, ça fait un peu une mission de l'extérieur.
Ouais, excellent. Immeute, tu dis?
Immeute. I-E, trait d'union, meute, comme la meute de chien. Immeute, ça s'appelle. C'est aussi lui, il fait quasiment que de la bourse. Objectif Éco, il y a un peu de tout.
D'accord.
Il y a après, il y a aussi les gens qui s'expatrient aussi. J'aime bien un peu suivre les gens qui s'expatrient pour telle ou telle raison, quoi, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, quoi, finalement. En fonction de ce qu'on pense, de ce qui va se passer, quoi, de ce qui pourrait arriver. Il y a quelques sites comme ça que je suis. Quoi, c'est peut-être les deux principaux.
C'est super. On les mettra en note
Et podcast. Puis, pour la bourse, il y a Business Bourse. Ça s'appelle tout bêtement Business Bourse.
Un site internet également.
Un site internet, ça nous permet de voir rapidement, en quelques secondes, ce que fait
l'évolution
la bourse. J'ai quelques graphiques comme ça que je suis un peu, notamment pour les devises.
Est-ce que vous avez un proverbe ou une phrase inspirante qui vous plaît, qui vous a. Vous aimez bien, en fait.
Aide-toi, le ciel t'aidera.
Ok, c'est pas mal, ça.
Aide-toi, le ciel t'aidera. Non, mais c'est vrai.
Ça résume un peu votre façon de faire aussi.
Ouais, ça.
Et puis, de jamais
lâcher. Ah, complètement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire?
De jamais lâcher quand on a raison. Je repense à la maison de Karine, qu'on avait
Parce qu'on s'occupait de nos immobiliers, mais pour nos enfants aussi, notre fils, quand on regardait les petits, pour lui dire va voir telle maison que même. Et notre fille, on n'a pas lâché.
T'avais pas lâché sur tout toi, là, par rapport. Il y avait les mauvaises références sur un plan, et donc la vente ne pouvait pas se faire à cause de ça.
D'accord.
On a aidé notre fille à acheter sa maison. Maintenant, elle n'y est plus, elle l'a vendue. On l'a aidée, mais elle ne connaissait rien, donc elle nous a fait confiance. Et puis, on a trouvé des erreurs. Ce n'est pas des magouilles, hein, des erreurs de jeunesse dans ce pays, tu vois, où, en fait, elle a acheté une maison sur le terrain du voisin. C'est-à-dire, sur le plan, sa maison portait, et le terrain de sa maison portait le numéro du terrain du voisin.
Ok, c'est pas mal.
Là, pour l'achat, la galère que ça a été. Parce qu'ils se renvoyaient la balle, parce que c'était inachetable.
D'habitude, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, c'est l'autre.
C'était toujours
entre
l'autre.
Notaire,
le notaire qui avait fait la vente n'existait plus, son successeur ne voulait pas. On a fait plein de grues chez le, comment dire,
le
géomètre. On n'a pas bougé tant qu'il ne nous a pas reçus. Etc. Mais on a réussi. Donc, ne jamais lâcher.
Deuxième proverbe. C'est marqué.
Et puis aussi, quand tu visites
une maison, c'est un peu ça,
quand tu visites une maison, parce que la maison de ma fille, on nous fait rentrer, le gars dormait. Il était là. Tu vois, c'était un prof, il était allé fou, dormait. Donc, on n'a pas pu rentrer dans la pièce et il y avait les meubles. Et quand on est arrivé, après l'achat, derrière le canapé, il y avait des traces d'humidité pas possibles. C'était pas conforme à ce qu'on aurait dû savoir. Je n'ai pas lâché. Et l'agence a fait refaire les 2-3 murs. On pense qu'il y avait eu une inondation et puis c'était caché par les meubles. Là, il ne faut pas lâcher aussi. Autant en tant qu'acheteur qu'en tant que vendeur, il faut être honnête. Moi, je vais te dire, c'est pour ça qu'on avait une bonne réputation aussi, même auprès des agences, parce qu'il n'y avait rien de caché. Si on trouvait qu'il y avait un petit défaut, quelquefois, c'était rien. L'agence disait, ce qu'il n'y a pas, il faut le dire. Et c'est bien dans un petit pays d'avoir une bonne réputation. Ça va vite.
Donc l'honnêteté sur aussi le long terme, c'est ça.
Puis même pour soi, ça c'est autre chose.
Bien sûr.
Une éthique personnelle.
Et du coup, dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, qui n'ose pas peut-être pas de se lancer, mais
une chose
que vous lui direz
De toute façon, jeune qui veut se lancer doit se lancer parce que c'est génial, un jeune qui se lance, alors dans n'importe quoi, qui se lance, qui fasse son expérience, qui se lance, qui aille de l'avant,
et quelqu'un qui n'ose pas justement parce qu'il a peur, il est
prisonnier
dans cette peur, la peur du crédit.
Il y a des lois qui s'informent bien auprès de professionnels, de bons ou plusieurs même. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dirais toi, mais il faut qu'il y aille.
Moi, je
connais
aussi.
Il y a plein d'atouts à se
former dans tous les domaines. Il faut apprendre. Il faut se former dans tous les domaines.
Mais il faut qu'il se forme d'abord.
Ouais, se former
avec Internet,
se lancer.
Et pas avoir.
Et ça vaut le coup.
Ah oui.
Bien
ça. Moi, je dis que ça vaut le coup. Alors, peut-être que les opportunités qu'on a, on ne va pas les avoir partout. Et par exemple, en ce moment. Maintenant, ça a baissé l'intérêt. Ouais. Mais le Portugal, c'était une belle opportunité il y a 5-6 ans. On a des amis qui avaient un grand appartement, Vénus, qui ont tout vendu. Ils sont allés au Portugal et ils m'ont dit on a une maison extraordinaire qu'on n'aurait jamais eue autrement. Et ils peuvent, avec ce qu'ils avaient, peut-être en acheter une deuxième. Il faut savoir si on est mobile.
C'est ça aussi.
Si t'es mobile, mais ils sont sur place. Ils n'ont pas acheté et puis ils restent ici. Tu vois?
Ouais, ouais, c'est des globe-trotteurs, un peu.
Hein?
Des globe-trotteurs.
Oui, 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 aussi. Je pense que c'est ça l'atout qu'on a eu et que d'autres amis ont eu. Nos copains qui sont en Grèce et puis pour acheter. C'est qu'on a bourlingué et ça ne fait pas peur, quoi.
Ouais.
On a eu des galères, c'est un petit peu la chance.
En fait,
c'est donné, mais...
Tout en ayant travaillé dur, je pense qu'on a eu de la chance, parce qu'on est tombé à l'époque où ils ont construit deux usines. Il y avait une usine, il y en a eu deux de construites, c'est-à-dire que le potentiel des usines a été multiplié par trois.
Ouais, tu parlais des usines de nickel en Calédonie.
Voilà, donc ça, il y a eu un développement considérable.
Oui, mais on a commencé avant qu'il y ait là-bas.
Oui, au début, on ne savait pas, après, peut-être qu'on a bénéficié de ce potentiel de développement, quoi. Les gens voulaient acheter son nom d'or parce qu'ils allaient travailler à l'usine du Sud.
Ouais.
Après, il y a ceux qui travaillent
à côté. On a eu des locataires, des ingénieurs de là-bas.
Ceux qui travaillaient à côté, par l'impiété à terre, sont nommés après. Donc, il y avait ça. Quoi.
Et complètement.
Maintenant, je dirais qu'il n'y a plus tout ça.
Voilà, il faut faire attention.
Par exemple, avec les cours du nickel qui ont baissé, ils ont contracté le personnel partout dans les usines.
Il faut être attentif à ce qui
est comme opportunité. Il y a plus de même potentiel. Un nouveau développement qui prendra la relève, c'est le tourisme. Parce qu'il n'y a rien ici.
Voilà,
ça va être long, peut-être que c'est pour les jeunes, c'est pas pour tout.
Tout à fait, vrai que les Chinois vont être une opportunité de développement.
Mais voilà, choisir où le tourisme aimera aller.
Mais oui. Et du coup, pour finir.
D'autres cibles, quoi.
Ouais. Pour finir, vous, l'avenir, vous voyez comment continuer à voyager.
On a 10 ans de bonheur, j'espère, encore en pleine forme. Non, je rigole. Tu veux dire par rapport à...
Pour vous, simplement, parce que vous comptez faire, vous comptez voyager, profiter, rester un peu...
On a passé notre vie à voyager.
Continuer à voyager, du coup. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Encore merci de m'avoir reçu.
Non, mais parce que, ça permet aussi de voir qu'il y a des jeunes auditeurs,
ai harcelé carrément au téléphone.
Non,
vous avez accepté parce que vous avez un emploi du temps de ministre.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode du podcast. L'histoire de Pierre et Sophie est vraiment extraordinaire. Je pense qu'elle va sans doute vous inspirer. En tout cas, ne vous laissera pas indifférent. Alors, si vous avez aimé cet épisode du podcast, sachez que ce podcast est hébergé et diffusé sur la plateforme Spreaker, une plateforme très conviviale. Et le podcast est également diffusé sur les plateformes iTunes, PodCloud, Facebook, Twitter, Spotify, pour ne citer qu'elles. Vous trouverez tous les liens d'accès en descriptif de l'épisode. Si vous avez vraiment aimé le témoignage de Pierre et Sophie et que vous appréciez le podcast Focus Immo Pacifique, il y a vraiment une seule chose à faire pour me soutenir. Donc, c'est de partager l'épisode à au moins une personne de votre entourage, par mail ou par les réseaux sociaux. Laissez un commentaire sur la plateforme de votre choix. Likez la page sur Spreaker et Facebook. Parlez-en autour de vous. C'est vraiment grâce à vous que ce podcast pourra grandir avec de nouvelles interviews, investisseurs à succès, des professionnels de l'immobilier toujours plus inspirants pour vos projets. Alors, avant de quitter votre application podcast, cliquez sur partager et partagez maintenant. Merci pour votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Ciao.